Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue ici dans ce magnifique espace mis à disposition par la librairie Mola, qui permet l'ensemble de ces rencontres culturelles autour des ouvrages et qui nous permet de rencontrer des auteurs à travers donc la présentation de leurs livres. Je me présente en premier, veuillez me pardonner, Christian Bloch, je suis le directeur du Centre National Jean Moulin et je tiens à remercier donc la librairie Mola de m'avoir proposé d'assurer cette modération dans le cadre de l'exposition que nous avons actuellement sur 1917, voilà les Américains. Mais le sujet de ce soir, évidemment, c'est la parution de cet ouvrage écrit par vous, Monsieur François-Emmanuel Brézé, bonsoir.
Bonsoir, cher monsieur.
Concernant donc la guerre sous-marine allemande. Alors vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes un ancien officier de marine, spécialiste d'ailleurs de la lutte sous-marine. Vous avez fait intime sous-marine, vous avez fait l'école navale, vous avez également fait l'Indochine. Vous êtes donc un militaire et vous avez consacré une autre partie de votre vie, tout particulièrement à l'étude finalement de la marine allemande. Et vous avez soutenu d'ailleurs brillamment une thèse de doctorat à Paris 4, à la Sorbonne, donc sur le plan Tirpitz, qui était une étude globale du développement de la marine impériale allemande de 1897 à 1914, sous la direction du professeur Meyer. Alors depuis, on vous doit de nombreux ouvrages ainsi que des articles qui couvrent justement maintenant la connaissance de l'histoire de cette marine depuis son origine jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et par exemple, on vous doit en particulier l'histoire de la marine allemande 1939-1945, un livre particulièrement intéressant sur cette figure qui est l'amiral Dönitz, avec pour sous-titre Le dernier Führer, La traque du Bismarck, Les derniers jours d'un mythe, et puis pour faire court, hein, évidemment, cet ouvrage-là qui vient de paraître aux éditions Perrin, La guerre sous-marine allemande. Alors pour assurer cette modération, évidemment, j'ai lu cet ouvrage et mon premier mot dans le cadre de la critique, ce sera « n'hésitez pas ». Voilà, c'est un livre qui est tout à fait superbe, c'est un ouvrage parfaitement riche, passionnant, de 368 pages, qui est complété d'ailleurs, hein, vous le verrez aussi bien en introduction qu'en fin, de nombreuses cartes qui permettent véritablement de visualiser les différents théâtres d'opération au fur et à mesure qu'évolue évidemment la conception de la guerre sous-marine allemande et les réactions des alliés, et puis aussi un certain nombre de tableaux analytiques à la fin qui permettent notamment de dresser des bilans, de voir des évolutions et donc d'enrichir la lecture de cet ouvrage. Parce qu'en effet, la lecture est facilitée par son contenu qui est assez précis, parfois technique, divisé en 24 chapitres, qui permettent d'avoir un rythme où on va passer parfois finalement du sentiment des bancs d'une école d'ingénieurs, parce qu'il y a quelques éléments techniques, au contraire au sentiment d'être à l'intérieur de ces U-boats, un petit peu dans le cadre de l'ambiance du film Le bateau de Wolfgang Petersen. Donc ce que je veux dire, sans vouloir faire un jeu de mots, c'est que c'est vraiment une lecture qui est immersive, et à partir de là, certains l'auront remarqué, à partir de là, c'est donc quelque chose qui est totalement important. C'est un ouvrage également qui permet de démystifier aussi un certain nombre d'informations ou de soi-disant connaissances que l'on peut avoir sur cette guerre, et qui permet, à travers le travail d'historien que vous avez fait, eh bien, de remettre justement les réalités à leur place. On y viendra un petit peu plus en détail. Ce qui ressort finalement à travers de cet ouvrage, qui a principalement une approche chronologique sur un sujet qui n'est pas facile, c'est qu'on peut avoir finalement un sentiment de compréhension de ce sujet qui est complexe et qui est le résultat d'une guerre de 30 ans, à travers une approche qui se veut à la fois chronologique et historique, technique et technologique, diplomatique mais aussi également géostratégique, tactique, stratégique à proprement parler, avec également une petite once d'espionnage, on verra ça dans le détail, quelques anecdotes, et puis bien entendu aussi, derrière l'ensemble donc de ces conflits, qu'il s'agisse du premier ou du second, et bien toute la dimension humaine que l'ensemble des statistiques et autres tableaux qui figurent de manière très précise dans votre ouvrage n'occulte pas finalement la réalité de cette guerre que vous décrivez comme étant souvent une guerre certes qui a fait l'objet d'une aura particulière et qui peut avoir un souvenir assez romantique, romanesque ou héroïque, mais qui finalement, comme toute option et toute action de guerre, se résume avant tout à la cruauté. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose également qui ressort de cet ouvrage. Donc si vous le permettez, on va avoir bien une petite conversation autour de cet ouvrage pendant quelques minutes, et puis ensuite nous laisserons la parole donc à l'assistance à travers d'autres questions qui seront les vôtres. Et moi, ma première question, Monsieur Brézé, c'est justement à travers l'apparition de ce livre, qui est un nouveau livre finalement sur la Seconde Guerre mondiale, quel a été votre objectif? Que souhaitez-vous illustrer?
Bien, je dirais que ma première idée, ça avait été de faire un livre sur les sous-marins allemands pendant la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que, à ma connaissance, en France, il y a très très longtemps que ce thème n'avait pas été abordé. Alors la Première Guerre mondiale, je ne vous en veux pas, vous n'étiez pas obligé de sortir toute la liste de mes livres. J'avais traité déjà de la Seconde Guerre mondiale, mais pour en ce qui concernait les bâtiments de surface. J'ai sorti un livre sur la bataille du Jutland, j'ai sorti un livre sur la bataille des Falklands, qui couvre en fait l'histoire de la guerre au commerce par bâtiments de surface, mais les sous-marins, je n'avais rien écrit dessus. Donc, j'avais proposé à mon éditeur de faire ce livre sur les sous-marins de la Première Guerre mondiale. Il m'a dit « D'accord, mais il m'a demandé de traiter aussi les sous-marins pendant la Seconde Guerre mondiale. » Bon, un éditeur, on est quand même un petit peu obligé de suivre ce qu'il vous demande. J'aurais préféré personnellement faire un livre uniquement sur la Première Guerre mondiale, parce que le sujet était suffisant pour remplir un livre. Il est certain qu'à partir du moment où on amène une deuxième guerre, eh bien, ça réduit le temps de, si je puis dire, de parole pour parler de la première. En plus, la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans mon histoire de la marine allemande, que ce soit surtout dans l'histoire, la biographie que j'ai faite de l'amiral de Nitz, il est certain que c'est le sujet de la guerre sous-marine de la Deuxième Guerre mondiale. Je l'avais déjà partiellement traité. Bon, bis repetita, placente ou non placente, comme vous voudrez. Voilà en fait sur quelle idée je suis parti, hein, et donc finalement moi, je fais comme ce que m'a demandé mon éditeur, hein, et j'ai sorti ce livre qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'aperçoit que les Allemands ont vraiment inventé et développé ce type de guerre. Ils ne sont pas tout à fait les seuls, parce qu'il y a une guerre de sous-marins dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a pourtant été très importante, je le dis tout de suite, hein, pour qu'il ne soit pas oublié. C'est celle qui a été conduite par l'US Navy, la marine américaine, pendant la guerre du Pacifique. Ils ont complètement étranglé les relations maritimes japonaises. On l'ignore en général. On connaît l'histoire de porte-avions, les débarquements, les marines qui faisaient démolir en morceaux sur les plages, etc., etc. Mais les sous-marins, on n'en parle pas. Alors je voudrais tout de même en dire un petit mot. Mais il n'en reste pas moins que ce sont vraiment les Allemands, d'abord, qui ont inventé, si je puis dire, cette guerre. C'est ça qui est assez curieux, que je mets dans mon livre. La Première Guerre mondiale, quand la guerre éclate, les sous-marins ne sont pas du tout prévus pour la guerre au commerce, parce que personne ne sait ce que veut dire guerre au commerce par sous-marin. Et puis c'est quand les Anglais décident d'établir le blocus de l'Allemagne, le blocus de la faim, ils comprennent très bien où ils veulent en venir, qu'ils disent « bon, ben, il faut qu'on en fasse autant ». Et le blocus de la faim, c'est la coupure des relations économiques, et cette coupure, comme la guerre, je ne vais pas vous faire un cours sur la guerre de surface, mais la guerre de surface, les Allemands n'étaient pas en position, si vous voulez, de mener une guerre de surface avec des chances de succès contre la Grande-Bretagne. Donc la seule façon qu'ils pouvaient, la seule guerre qu'ils pouvaient utiliser, c'est la guerre sous-marine. Et c'est comme ça que cette guerre sous-marine s'est mise en route progressivement. Voilà. Mais après ça, ça a duré jusqu'en 1945, c'est pour ça que j'ai intitulé, encore que le titre peut être discuté, 30 ans, une guerre de 30 ans. Ça a commencé en 1915, ça s'est terminé en 1945. Voilà.
Alors, Merci à votre éditeur, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir dans un seul et même ouvrage, finalement, cette vision de la guerre, dont les objectifs sont les mêmes, mais qui finalement se ressemblent très peu, parce qu'il y a une période de durée assez importante, et ça permet de voir soit des ruptures, soit des lignes, et notamment au niveau d'un point de vue technologique. Comme vous l'avez dit, les Allemands sont à l'origine, justement, du développement de cette guerre.
L'invention, incontestablement.
Et très rapidement, on voit que ça devient, chez eux, une obligation que d'avoir une flotte sous-marine, avec, dans le début du livre, des choses très intéressantes sur les premiers essais dès le 19e siècle, plus ou moins réussis, et qui vont permettre d'avoir une guerre sous-marine intense dans le cadre de la première guerre mondiale. On voit justement l'importance des ressources aussi, de la logistique, de l'inventivité que cela demande et des conditions que cela va entraîner pour les marins. Donc il y a toute cette approche technique et technologique où on voit justement quelles sont les difficultés techniques et technologiques qu'il peut y avoir pour la Première Guerre mondiale et puis également les variations qui se passent pour la Seconde Guerre mondiale. Avec un élément tout à fait remarquable dans l'entre-deux qui est celui de l'entre-deux-guerres. Comment finalement avec le traité de Versailles, l'article 188 et 191, les Allemands ont tout fait pour conserver leurs connaissances et leurs acquis. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, le traité de Versailles, cette première guerre sous-marine, ça avait terriblement frappé les Alliés. Finalement, ça n'a pas été tellement dramatique, puisque je pense qu'on en reparlera, je peux en parler maintenant, mais les pertes ont grimpé énormément, et puis ça s'est écroulé très vite. Donc le danger n'a quand même pas été terrible. Mais ça a quand même frappé les esprits, parce que c'était une... Vous m'entendez, pardon, je suis... Ça va, oui. C'était une guerre nouvelle que l'on ne connaissait pas. Alors, traité de Versailles, interdiction des sous-marins pour les Allemands. Alors, et ils ont été... L'exécution militaire du traité de Versailles a été quelque chose d'extrêmement strict. Autant il y aurait beaucoup de choses à dire sur le traité de Versailles, mais en ce qui concerne les clauses militaires, et notamment les clauses militaires de désarmement, ils ont été, dans tous les domaines, exécutés de façon totale. Donc les sous-marins allemands ont totalement disparu. Alors, réaction de la marine allemande, on a quand même laissé les Allemands conserver une marine de, je crois, 100 000 tonnes, avec du cuirassé ne dépensant pas 10 000 tonnes alors qu'ils étaient à 30 000, 40 000 sur les autres marines, et puis pas de sous-marins, pas d'avions, pas de choses comme ça. Alors leur objectif, ça a été de conserver ce know-how qu'ils avaient accumulé pendant la guerre, parce que c'est une chose qui est absolument remarquable et qu'on peut vraiment qualifier de génie allemand, même si ça a des conséquences parfois qui ne sont pas très agréables, c'est que cette nation qui venait de construire en quelques années une flotte de combat équivalente du point de vue valeur. Il n'y avait pas le nombre de bateaux, ils n'ont pas eu le temps, mais du point de vue valeur, c'était tout à fait équivalent à celle, parfois même supérieure pour certaines unités, à la marine britannique. Ils sont passés brusquement à la construction de sous-marins qu'ils n'avaient jamais construits, puisque ça n'existait pratiquement pas avant, et ils ont réalisé des bâtiments tout à fait remarquables. Alors évidemment, ils se sont dit, oh, ce know-how, il faut le garder. Alors il faut le garder, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constitué des sociétés à l'étranger, sous label des Pays-Bas, des Pays-Bas, je crois, peu importe. Les sièges étaient à l'étranger, donc ce n'étaient pas des sociétés allemandes. Et puis, ils ont surtout construit et réaliser des bateaux pour les différentes marines étrangères. Et puis, quand est arrivé le moment du réarmement, c'est au début des années 30, c'est pas Hitler qui a fait réarmer, ce sont les derniers gouvernements de la République de Weimar qui ont commencé à ordonner le réarmement aussi bien de l'armée que de la marine. Alors là, ils ont préparé la construction d'une douzaine de sous-marins qu'ils ont sortis très rapidement. Après ça, ça s'est un petit peu essoufflé. Mais ils ont repris, si je puis dire, en 38-39, quand vraiment ils se sont lancés dans la construction d'une flotte sous-marine, ils sont repartis avec le know-how qu'ils avaient acquis et même amélioré, parce que les sous-marins qu'ils ont sortis en 39 étaient très supérieurs à ceux qu'ils sortaient en 1918.
Voilà ce qu'on peut dire. C'est très important. Parce que...
Oui, c'est important. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent passé sous silence.
Oui, 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 oui.
Et il y a souvent la difficulté de passer de la guerre sous-marine dite à outrance pendant la Première Guerre mondiale à la création de ces U-boats en ayant la compréhension des réalités de ce traité de Versailles. Et dans votre ouvrage, ce qui est intéressant justement en continuant sur toute cette approche technique, technologique, c'est de voir d'ailleurs que les visions qu'il pouvait y avoir du conflit ont eu d'ailleurs avant le déclenchement de ces derniers de très graves incidences qui ont été parfois des répercussions qui n'ont jamais pu être rattrapées. Comme par exemple le mythe pendant la Première Guerre mondiale de comme quoi la guerre serait courte et donc on ne construit pas finalement, alors qu'on en a les moyens, la flotte nécessaire.
La guerre courte.
Hein, qui ne l'est pas, ou Hitler justement dans l'entre-deux-guerres qui accepte avec facilité, pensant qu'il ne fera jamais la guerre face à l'Angleterre, un tonnage de 45% de la flotte sous-marine anglaise, et il ne rattrapera jamais finalement le retard ou donnera les moyens nécessaires à ce que demande Dönitz. Et tout ceci est traité justement dans le livre et permet d'avoir cet éclairage et qui montre que même si les Allemands sont à l'origine de cette guerre, finalement, c'est peut-être une des causes de l'échec, vous allez le confirmer ou l'infirmer. Vous allez le confirmer ou l'infirmer, s'ils sont à l'origine de cette guerre, ils n'étaient pas prêts pour autant lorsque les guerres ont véritablement éclaté.
Oui, alors, origine de la guerre. Je pourrais vous faire toute une conférence là-dessus, j'ai pas mal réfléchi. Je vais simplement vous dire que, je crois que c'est il y a un an, j'avais écouté une conférence d'un brillant journaliste du Figaro. Tous les journalistes du Figaro sont brillants, d'ailleurs ils font d'excellentes critiques de mes livres.
Alors, c'est bien.
Je peux pas dire le contraire. Et bien ce journaliste avait traité justement des responsabilités de la guerre. Et à la fin, je l'interroge, je lui dis, alors, il avait mis l'accent sur l'Allemagne, et je lui demande, alors l'Allemagne, hein, oh, il me dit l'Allemagne 80%. Alors, je lui dis, écoutez, monsieur, 80%, hein, vous ne laissez pas beaucoup pour la France, la Russie, l'Autriche, l'Italie, tous les autres pays hein, qui ont poussé ou qui n'ont pas empêché la guerre. Donc la responsabilité, je crois qu'il faut en tout cas arrêter de dire... La faute à l'Allemagne. C'était très bien de dire ça en 1918. Hein. Ça encore qu'on a poussé la plaisanterie un petit peu trop loin, en ce sens qu'on les, on les a écrasés, ils ne s'en sont pas... Il y a eu des conséquences. Mais là, maintenant, très honnêtement, en 2017, on ne peut pas dire que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre. Tous les pays... si vous voulez, moi, il faut voir qu'en 14, la situation était très simple. Il y avait deux pays hostiles, la France et l'Allemagne. La France, pour se mettre à l'abri, s'était mis d'accord avec la Russie. L'Allemagne... pour se mettre aussi à l'abri, était d'accord avec l'Autriche. Alors faire attention quand vous faites une alliance avec quelqu'un. Vous êtes responsable de cet allié. Si cet allié, pardonnez-moi l'expression, fait des conneries, c'est vous qui êtes responsable. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 14? En 14, eh bien, l'Allemagne, l'Autriche, s'est lancée dans cette canonnade, ce machin contre la Serbie, alors que le traité ne prévoyait pas du tout une défense, pas du tout une attaque de l'Allemagne. Et l'Allemagne, au lieu, là, évidemment, ne l'a pas calmé, ne l'a pas empêché de continuer. Mais de notre côté, quand les Russes ont commencé à vouloir mobiliser, non seulement on ne leur a pas dit « attention, ce n'est pas le casus Federi, ce n'est pas l'Allemagne qui nous intéresse, qui nous attaque, nous. Hein, c'est l'Autriche qui est en train de se battre contre un pays de vos amis. Bon, enfin, ce n'est pas nous, quoi. » Alors, le résultat, si vous voulez, c'est que moi, je pense que la responsabilité est très largement partagée hein, et qu'il faut cesser, en tout cas, de vouloir remettre ça sur la tête de la seule Allemagne, hein, sans pour autant nier leur responsabilité. Hein. Je ne suis pas en train de vous expliquer, je ne pense pas que vous compreniez comme ça, que l'Allemagne n'y est pour rien. Dire qu'il voulait la guerre, par exemple, une personnalité comme l'empereur qui était... toujours à la limite de la crise de nerfs qui pleurait dans les jupes de sa femme quand son premier ministre l'engueulait. Croyez-moi, c'était pas Hitler, hein, c'était tout à fait différent. Hein, donc voilà.
Alors, je clarifie mes propos. Je parlais à l'origine de la guerre sous-marine.
La guerre sous-marine.
Voilà.
Ah, pardon.
Pour le reste, je partage entièrement votre avis.
Vous Vous êtes pourtant du côté de la bonne oreille.
Voilà. Bon, et parce que alors, ce que vous défendez d'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est ce qui est parfaitement défendu au centre Jean Moulin, surtout aujourd'hui, avec les travaux évidemment historiques. Mais c'était la guerre sous-marine.
Alors la guerre sous-marine, alors là, il y a. Vous voyez, encore récemment, vous voyez quelqu'un me couvrir, qu'est-ce qui a inventé le sous-marin? Alors ne me posez pas la question, parce que je me garderai d'y répondre. Parce que si je vous donnais une réponse, il y aurait forcément quelqu'un au fond de la salle qui me dirait « Mais non, c'est un tel, hein, parce que savoir qui a inventé le sous-marin, il y a eu des expériences à peu près dans tous les pays. » Par contre, la guerre sous-marine au commerce. Hein,
oui, au commerce.
Faut bien préciser, hein, parce que la guerre sous-marine lancée sur des bâtiments de surface, ça c'est... Ça a apparu, ça a démarré assez tôt. Mais ce sont les Allemands, ce que je disais tout à l'heure, peut-être un peu rapidement. Leur sous-marin était rattaché à la Rosé-Flotte, la grande flotte de combat. Ils étaient traités, c'était des torpilleurs de surface. Ils étaient formés en flottille, comme les flottilles de torpilleurs. Et dans l'ordre, c'était l'empereur lui-même qui avait sorti un ordre de combat, rien n'était prévu pour l'attaque des bâtiments de commerce par les sous-marins. Il y avait un petit paragraphe sur la guerre au commerce, mais la guerre au commerce, c'était par bâtiments de surface. Les bâtiments qu'ils envoyaient, les Graf Spee, les choses comme ça, oui, ça c'était la guerre au commerce, mais par bâtiments de surface. Il n'y avait rien de prévu pour les sous-marins. Et puis les Anglais, tout de suite, ont établi, à l'encontre des réglementations internationales assez compliquées, je vous en parlerai si on a le temps de trucs, mais... ont commencé à vouloir établir un blocus de l'Angleterre. Et c'est là où les marins ont commencé à dire, les marins qui avaient déjà, très vite, des marins avaient dit, mais il faut attaquer le commerce. On m'a dit non, les règlements internationaux ne permettent pas d'attaquer des bâtiments de surface et des bâtiments de commerce avec des sous-marins, de les torpiller, de les envoyer par le fond, c'est pas couvert par les conventions internationales. Mais quand est apparu le danger d'un blocus et d'un blocus économique, et le Hunger Blockade, le blocus de la faim de l'Allemagne, là, c'est là où, très rapidement, est née l'idée d'utiliser les sous-marins pour attaquer le commerce de façon... Et l'idée, ce n'était pas de couper toutes les relations, c'était justement d'intimider la Grande-Bretagne, de leur dire, voilà, vous nous empêchez les bâtiments de ravitaillement de ravitailler la population, et ben nous voulons les bateaux qui arrivent chez vous. Arrêtez, nous arrêterons. Ça a commencé comme ça. Puis évidemment, ça n'a pas duré très longtemps. Après ça, on a évolué progressivement vers une guerre totale. Mais à l'origine, c'était ça. Voilà.
Alors justement, dans votre livre, on voit très bien cette approche juridique de la guerre, qui rattrape un peu la question des responsabilités dont on parlait précédemment. Et à un moment, vous avez une phrase dans votre introduction qui est parfaitement importante, parce que ça constitue un fil rouge. C'est « Conduite de la guerre sous-marine et droit international maritime vont donc s'affronter dans une dialectique qui aura pris naissance dès les premiers mois de la guerre et qui se poursuivra jusqu'au dernier ». Et il est vrai d'ailleurs qu'à travers les nations neutres, et en particulier les États-Unis, il va y avoir une ambiguïté avec Wilson qui ne va jamais dénoncer ce blocus de la faim finalement qui est lancé contre l'Allemagne, mais qui réagira au moindre prétexte finalement contre l'Allemagne lorsqu'il y aura le moindre torpillage donc d'un navire civil. On pense évidemment au Lusitania, mais il y en a eu d'autres. Et on voit que cette question, finalement, de l'Amérique et de la peur de l'entrée en guerre dans l'Amérique a eu une incidence incroyable, justement, sur les différentes phases du choix, du renoncement, de l'avancée, du recul, des hésitations du Kaiser dont vous parliez, Guillaume II, justement, de savoir s'il rentrait dans cette guerre illimitée ou s'il revenait sur une guerre plus conventionnelle.
Oui, vous avez raison de parler de... C'est moi qui en parle.
Oui, c'est vous.
Je citais cette phrase sur le fil rouge. Qu'est-ce qui différencie la guerre 14-18 de la guerre 39-45? Eh bien, c'est ça. C'est ça. La guerre 14-18, c'est une guerre politique, c'est une guerre de régulation de droit maritime, de choses comme ça. Et les différents épisodes, c'est rythmé par ça. On y va un petit peu plus, non, un petit peu moins, on arrête, on recommence, etc. La Seconde Guerre mondiale... Je crois que le soir même, le premier soir, lorsque le ou je ne sais plus combien, torpille l'Athénia,
Il y a quelques cris. Bon, Hitler dit ça, c'est Churchill qui a fait péter le bateau. N'essayez pas de nous la faire, etc. Et on n'en parle plus. C'est fini. Et tout le monde admet, sans protestation, sans manifestation, sans rien, que les sous-marins balancent leurs torpilles sans prévenir sur tout bâtiment jugé extérieur. Donc là, il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas de machin diplomatique, il n'y a pas de choses qui sont séquencées par justement. Alors que ça, toutes les phases. Ceux qui liront mon livre, toutes les phases de la guerre, première, deuxième, troisième, quatrième, derrière, il y a ça. Est-ce qu'on fait la guerre à outrance? Est-ce qu'on fait la guerre ceci? Est-ce qu'on fait la guerre comme ça? Etc., etc. Ça passe presque devant les opérations, voilà, si je puis dire.
Et c'est là où votre ouvrage prend aussi donc un autre relief tel que je le présentais en introduction, c'est que nous voyons donc qu'à travers cette guerre sous-marine allemande, il y a aussi toute une approche diplomatique, politique qui est présentée, qui est un peu novatrice et notamment qui fait intervenir un acteur nouveau dans le cadre de ces conflits, c'est la question de l'opinion publique, qui joue un rôle très important dès la guerre 14-18 et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on fera attention aux termes que... Enfin, les nazis feront attention aux termes qu'ils utilisent pour justement essayer donc de maquiller une réalité. Mais la question des opinions publiques est intéressante.
Oui, alors, je vous dirais, la Seconde Guerre mondiale, oui, il y a eu un épisode comme ça où ils ont joué un peu... Après ça, on n'en a plus parlé. Je maintiens qu'après ça, on n'en a plus parlé. Il n'y a plus eu de discussion sur les droits de ceci, les droits de cela. Tandis que la Première Guerre mondiale, effectivement, c'est ce qui s'est passé.
Alors, à travers la présentation donc, de ces phases dans lesquelles la question de cette opinion publique, le poids donc justement de l'entrée en guerre ou pas des États-Unis, de la question des navires neutres, fait qu'on a d'une manière chronologique également une vision globale de cette guerre qui se fait sur l'ensemble des océans, avec en particulier, donc essentiellement là pour la Deuxième Guerre mondiale, une bataille incroyable qui est celui de l'Atlantique Nord. Et vous faites d'ailleurs une comparaison dans le cas de son déroulé et de son échec, en disant que le retrait des U-boats nazis, finalement, a autant de conséquences sur mer que la défaite de Stalingrad sur terre, qui lui est pratiquement contemporaine.
Tout à fait. Pour la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'en mai 1943, l'amiral de Nitz, sans consulter Hitler, ce qui est assez extraordinaire, hein, un général de l'armée n'aurait pas osé arrêter les combats sans l'autorisation du Führer, décide de retirer sous-marin de l'Atlantique, du théâtre d'opération de l'Atlantique Nord, hein, qui était très, très important, en raison des pertes. Je crois que les pertes étaient, vous avez vu, ils en étaient à 30-35 sous-marins dans le mois, hein, c'était pas quand même des... Eh bien, effectivement, c'est aussi important que la bataille de Stalingrad, hein, parce que ça veut dire qu'après ça, les Alliés ont pu, il y avait tout de même en préparation le débarquement, tout le matériel du débarquement est passé pratiquement après ça sans coup férir, enfin des pertes tout à fait négligeables.
Et alors, dans le cadre donc justement de ces difficultés que rencontrent les Allemands, c'est là où on rentre un petit peu dans la dimension, cette fois-ci, c'est une expression, roman d'espionnage, avec notamment toute cette histoire tout à fait incroyable autour de la machine Enigma, du codage Ultra et Triton. Et donc là, on se met à suivre effectivement l'ensemble de ces questions et... Un système qui finalement, dont parfois de Nitz aura la suspicion comme quoi son chiffrage a été effectivement éventé, mais un certain nombre de commissions qui lui assureront le contraire et qui font que eh bien, les Allemands ne vont cesser d'aller de Caribe en Scylla.
Oui, ben, cette histoire de l'énigme, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands, normalement, étant donné la façon dont les messages étaient... Les codes ont été cassés. On a du mal à comprendre que les Allemands n'aient pas compris qu'il y avait un véritable problème. Alors, ils sentaient qu'il y avait quelque chose, hein, quand ils trouvaient des messages radio dans lesquels on donnait une disposition des sous-marins qui correspondaient effectivement... Les Alliés, par contre. Donnaient les dispositions des sous-marins qui correspondaient effectivement au déploiement en cours. Mais alors, ils mettaient ça sur... Ils trouvaient toujours de bonnes raisons pour dire, ben voilà, oui, c'est comme ça, ils sont... Mais ils ont toujours refusé de comprendre que leur code était percé. Ils ont lancé des commissions d'enquête. Alors, les commissions d'enquête, il faut faire attention, hein, parce que les commissions d'enquête, si vous faites faire une commission d'enquête par les responsables, il n'y a pas beaucoup de responsables qui disent, ben oui, effectivement, hein, on a fait des conneries, hein, et notre code... Donc, les commissions d'enquête... Hein, concluaient toujours que les codes qu'ils avaient eux-mêmes élaborés, que les précautions qu'ils avaient données étaient les bonnes. Hein. Ils n'ont jamais accepté. Alors c'est encore d'autant plus étonnant qu'eux ne se privaient pas de décoder tout le trafic des convois. Des convois alliés étaient décryptés presque en clair par les opérateurs allemands. Hein. Alors qu'il n'est pas pensé que les alliés faisaient la même chose. On a estimé, là, dans mon livre, dans les remerciements, j'ai rendu hommage à un historien allemand, Jürgen Rover, qui est un homme absolument extraordinaire. C'était un sous-marinier, il a fait la Seconde Guerre mondiale, et puis il était très jeune. Et puis il est passé, il fait partie dans les premiers de ces équipes d'historiens allemands qui ont travaillé avec les alliés sur justement l'histoire de la guerre sous-marine. Il a poursuivi ça toute sa vie. Hein. Il a étudié tous les convois, tout ce qui s'était passé. Et notamment, c'est celui qui a réussi à déterminer, il s'est efforcé de déterminer quelle était la part effective, hein, en voyant ça convoi par convoi, qu'est-ce qui se serait passé si le convoi n'avait pas été dérouté, s'il était parti par là, s'il avait continué par là, etc., etc. Il est arrivé à la conclusion que le décryptement des convois a coûté 30% a fait perdre 30% du tonnage qui aurait dû être coulé par les sous-marins, donc tout de même quelque chose de très important. Alors dans le décryptement, si vous permettez un petit mot en plus, une chose qui est moins connue et qui est intéressante, je ne sais pas si on parlera de l'affaire du Lusitania, mais l'affaire du Lusitania, quand le Lusitania arrive en mer d'Irlande, les services de décryptement de l'amirauté on décrypte depuis des mois et des mois les messages des sous-marins allemands. Les sous-marins allemands, à cette époque-là, on ne se méfiait pas. Donc, quand un sous-marin coule un machin, cocorico, il faisait surface, hein, il donnait tout juste, il ne donnait pas sa position, hein, et il signalait le bateau qui venait de couler. De toute façon, les bateaux coulés aussi, ils envoyaient des messages. Donc, il y avait 3 ou 4 messages qui avaient été interceptés indiquant que des bâtiments avaient été coulés en mer d'Irlande. Et personne n'a pensé à faire demi-tour, hein, à ce paquebot qui arrivait sans protection et sans rien.
Alors justement, le naufrage du Lusitania, qui est le prélude d'ailleurs à d'autres naufrages, pourtant dans laquelle aussi se trouvaient d'autres citoyens américains, fait que cette guerre sous-marine a toujours été mal vue par les opinions publiques, étant considérée comme une barbarie et finalement la nation allemande finalement une nation corsaire. Et après le Lusitania, l'image de la Kriegsmarine se trouve justement grandement écornée sur cette question-là. Et le fait que les sous-marins, vous le détaillez parfaitement, le fait que les sous-marins dévoilent, notamment dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, leur position parfois pour faire des sauvetages de l'ensemble de ces navires, fait qu'il y a un certain nombre d'incidents où il y a une réactivité, notamment avec l'aviation, et que ces sous-marins-là sont coulés. Et ça va faire prendre, et ça c'est l'approche humaine qu'il y a dans l'ouvrage au niveau donc, de la cruauté de la guerre, et l'horreur évidemment de l'idéologie nazie, c'est que Dönitz va prendre un ordre tout à fait effroyable, dans lequel il interdit finalement ces navires d'assurer donc, le sauvetage des naufragés.
Oui, alors, non, attention, vous parlez d'ordre effroyable, parce que là, si vous voulez, vous stigmatisez Dönitz. Cette histoire de sous-marin, c'est ce qu'on appelle l'histoire du Laconia. On n'est plus dans le Lusitania, hein.
Voilà,
c'est le Laconia et la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Un paquebot, des sous-marins qui descendent la côte d'Afrique, on torpille le Laconia. Et puis, on s'aperçoit que les commandants qui avaient torpillé, dans un coup de périscope, il s'aperçoit qu'il y a une énorme panique, des soldats, puis il manque de peau, ces soldats, c'est des soldats italiens. En fait, ce sont des prisonniers italiens hein, que par le tour de l'Afrique, on ramenait de Mogadiscio jusqu'en Angleterre. Alors il a organisé une, il a fait surface, et il a organisé, il a commencé à organiser avec l'accord de Dönitz, avec, sinon l'accord, du moins pas le refus du Führer, qui a quand même fini par être mis au courant, une opération de rescue. On a fait venir deux ou trois autres sous-marins. Ils ont pris à la remorque les embarcations avec celles qui étaient remplies. On a commencé à faire route vers les côtes françaises. Et puis là, malheureusement, il y a eu un bombardier américain. On n'a jamais su, personne n'a jamais su ce qu'il était venu faire là. Il est passé là. Ça, il y a eu le sous-marin. Il a lâché ses bombes. Avec, heureusement, pas trop de dégâts. Alors évidemment, les Allemands se sont dit non, là c'est plus du jeu, donc les bateaux ont lâché les remorques. Finalement, c'est des bateaux français qui sont venus les chercher, donc les gens ont été sauvés. Mais Dönitz en a tiré quand même les conclusions, et c'était tout à fait normal. Il a non pas donné l'ordre, mais il a rappelé, parce que l'ordre il existait déjà, que les sous-marins n'avaient pas à recueillir les naufragés. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'un sous-marin, il n'y a pas la place pour ramasser les naufragés. Donc c'est pas un acte de barbarie, c'est une loi de la guerre, c'est tout. Les avions de bombardement, vous leur demandez d'aller ramasser les blessés, les machins, de les ramasser. Ils ont pourtant de la place dans leur soute, ils pourraient ramasser. Ça vient les dévoyer, ça vous fait rire. Vous avez raison de rire, parce que ça paraît une plaisanterie. Et c'est une plaisanterie, d'ailleurs, effectivement. Et ben, les sous-marins, il n'y a aucune raison de leur demander. Donc, il a rappelé cet ordre. Mais il a eu, malheureusement, la mauvaise idée, parce que tout de même, Dönitz était, comme je crois l'avoir démontré, un bon nazi, assez dur de tempérament, il a dit, et puis écoutez, et puis n'oubliez pas qu'on bombarde nos femmes, nos enfants, nous n'avons pas à faire avoir de ménagement vis-à-vis de l'ennemi. Ça a été interprété, et ça a été mis sur la liste des griefs contre lui à Nuremberg, sans effet, parce que ses avocats ont sorti une lettre de l'amiral Dönitz, hein, qui donnait les mêmes ordres qu'avait dit, mais on a donné les mêmes ordres aux sous-mariniers américains. Ce n'a pas dit Nimitz.
Nimitz.
Reconnaissent les historiens américains, c'est que les sous-mariniers américains, il y avait une haine des Japonais assez extraordinaire dans cette guerre du Pacifique. Hein. Il faut voir aussi les sentiments, hein, ce qui se passe là-dedans. Hein. Il y a eu des cas de rescapés japonais, hein, de Japs, sales Japs, etc., qui ont été terminés à la mitrailleuse. Hein. Parce que les Allemands, il y en a un seul cas, un bâtiment, un sous-marin qui a été torpillé, qui avait torpillé un bateau qui s'appelait le Péléus, et puis là, effectivement, ils se sont amusés à trois à faire des cartons à la mitrailleuse sur les survivants. Eh bien, ils sont passés, après la guerre, ils sont passés devant un tribunal anglais. Le commandant et deux officiers ont été condamnés à mort. Quand on a demandé au commandant qu'on l'a mené au peloton d'exécution, est-ce que vous aviez un ordre de l'amiral Dönitz pour faire ça? Il a répondu non. Donc vous voyez que de ce côté-là, je crois qu'on ne peut pas retenir le grief là, contre.
Alors, dans votre ouvrage, également une approche très importante sur les deux guerres qui est mentionnée et qui est tout à fait palpitante là aussi, c'est toute l'approche tactique et toute la technique, justement. Et on voit l'homme de mer que vous avez été pour accorder, justement, tout l'intérêt à ces questions, avec en très, très grande partie la technique, donc finalement, des meutes qui avait été mise en place par Dönitz, ou les très grosses difficultés, notamment pendant la Première Guerre mondiale, pour l'ensemble des capitaines qui se trouvent dans des conditions de navigation et de techniques difficiles, pour éviter justement l'ensemble de ces bavures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, justement, de ces opérations et de cette tactique sous-marine?
Alors, la tactique qu'on appelle la tactique de meute, là aussi, hein, faut faire attention pour dire qu'est-ce qui a inventé la tactique de meute. Hein, si je vous dis Dönitz, on trouvera quelqu'un d'autre. Hein, parce que, non, enfin, tactique de groupe, manœuvrer à deux, j'allais dire, c'est évident quand on fait la guerre. Hein, on est quand même plus fort quand on est avec un copain que quand on est seul. Donc il est certain que la Première Guerre mondiale, il y a eu quelques officiers qui ont eu l'idée de travailler ensemble. Puis ça ne s'est pas matérialisé parce qu'il n'y avait pas suffisamment de sous-marins. De Nitz, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a perfectionné après ça le système. De Nitz devait faire une opération comme ça avec un de ses collègues. Et puis ça ne s'est pas fait parce que l'autre sous-marin, ils ont eu des problèmes, ils perdaient de l'huile, ils perdaient je ne sais pas trop quoi, et finalement il est rentré au port, donc il a continué, il a fait son opération tout seul. Mais De Nitz, à ce moment-là, a quand même continué dans son idée, et ce qui fait que l'on peut dire que vraiment la technique de Meute, c'est lui. C'est que c'est lui, si vous voulez, qui en a développé vraiment tous les aspects, parce que même mettre 10 sous-marins, si je ne vais pas dire, on va partir à 10. Hein. Il faut savoir aussi comment on va manœuvrer. Et bien, De Nitz est allé très loin, et est allé très loin avant la guerre, parce que quand la guerre éclate en 1939, les sous-mariniers allemands, il n'y en a pas énormément, il y a une quinzaine, une vingtaine de sous-marins, ils savent déjà ce que c'est que la technique de Meute. Ils ont été rodés, hein, la technique de Meute, ça veut dire... Les sous-marins sont déployés, celui qui prend le contact amène les autres, essaie d'amener les autres sur le contact, hein, et tout ça est en plus dirigé à partir d'une station à terre avec des messages, des choses comme ça. Donc il y a toute une tactique qui se développe et qui est mise au point par De Nitz avant qu'éclate la guerre. Ça a été le premier commandant de flottille de sous-marin, hein, et il a développé immédiatement cet esprit et cette stratégie, cette tactique, peu plus, d'attaque. Et bien entendu, quand la guerre a éclaté, il a développé ça dès qu'il a pu. Parce que le problème qui s'est posé, c'est qu'en 1939, il n'y avait pas suffisamment de sous-marins pour faire ça. Mais quand le nombre de sous-marins, ça commence à peu près en 41-42, la tactique de Meute. Alors là, il a développé ça de façon remarquable.
Pour conclure, quel bilan peut-on tirer de cette guerre de 30 ans, et notamment au plan humain ?
Ah ben, au plan humain, moi, je disais, c'est ce que j'ai dit dans ma conclusion. Moi, je sais que quand je suis rentré dans la marine en 50, c'était les quelques années après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, pardon, les sous-mariniers... les sous-mariniers allemands avaient un prestige extraordinaire. C'était comme ça. Il y avait les nazis, mais il y avait les sous-mariniers. C'était autre chose, hein, les loups gris de l'amiral, etc. D'ailleurs, j'avais pensé à un moment être sous-marinier, où, à quel point même ça a pu prendre sur les esprits. Donc, il y a un peu cette notion de guerre propre. Et c'était une guerre, effectivement, qui a été propre. Parce qu'il n'y a pas eu, justement, d'abus, il n'y a pas eu d'atrocité, ou plutôt c'était limité vraiment à l'extrême. Enfin, il n'en reste pas moins que c'est une guerre comme toutes les guerres, hein, c'est-à-dire qu'elle est féroce, qu'elle est cruelle, et qu'on oublie trop souvent ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est les bâtiments torpillés, c'est les matelots, les personnels civils ou militaires, peu importe, si je puis dire. Hein, dans les flammes, le mazout, etc., et le nombre de victimes considérable. Et en fin de compte, cette guerre a échoué. Cette guerre a échoué. La Première Guerre mondiale, alors là, pour des raisons très précises, c'était le début. Jamais les Allemands, bien entendu, n'ont pu avoir d'abord suffisamment de... n'ont pas eu le temps de construire suffisamment de sous-marins, et surtout l'implication politique a été beaucoup trop importante. Il est évident que ce n'était pas en 1917 qu'il fallait déclarer la guerre à outrance, il aurait fallu pouvoir la déclarer dès le début, avec des moyens suffisants. Ils ne l'ont pas fait, ils n'avaient pas non plus les moyens suffisants, donc c'était un peu sans espoir. La Seconde Guerre mondiale, c'est un petit peu différent, ça a été beaucoup plus violent, mais là aussi, ce n'est pas allé jusqu'au bout, parce que, en fait, ce qui s'est passé pour la Kriegsmarine, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que Hitler n'a jamais intégré la guerre sous-marine dans sa stratégie. Il faisait la guerre sur terre. Alors d'abord, ça a été l'offensive vers l'ouest, qui s'est terminée de façon miraculeuse. Après ça, il s'est retourné vers l'Est, hein, persuadé en plus qu'il ferait ça très rapidement. Pendant ce temps-là, les sous-marins, pour les construire, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait le personnel, il y avait les modèles. Mais il fallait tout de même lancer des séries et investir. Il a toujours refusé les crédits suffisants. Il n'y a qu'en 1943, après le Stalingrad de l'arme sous-marine, que les sous-mariniers ont eu les pleins pouvoirs, si je puis dire. C'est là où ils ont construit tous ces sous-marins en série, mais qui n'ont jamais pu achever parce que c'était beaucoup trop tard pour réaliser une flotte sous-marine. Et de toute façon, les Alliés de leur côté étaient arrivés à un niveau de puissance qu'on a aujourd'hui encore du mal à imaginer. Hein, 80, 90 porte-avions d'escorte, je ne sais combien de bon, des chiffres délirants. Donc Même si les Allemands, comme l'on dit parfois, s'il y a eu quelques mois, tous ces sous-marins, ils n'auraient rien fait de plus. Donc c'était un combat sans espoir.
Voilà pour cette présentation qui est évidemment loin d'être exhaustive. Une multitude d'autres thèmes se trouvent à l'intérieur de cet ouvrage, les autres fronts, la Méditerranée, la mer Arctique, le Pacifique dont vous parliez, tout ce qui permet donc d'avoir une vision vraiment générale sur cette guerre sous-marine allemande. Merci beaucoup pour cette présentation, cette érudition aussi qui se retrouve dans votre ouvrage, qui, je le répète, est tout à fait passionnant. Et vous pouvez continuer si vous le souhaitez. En présence, oui.
Je vous remercie. J'étais très heureux, en tout cas, de parler devant vous.